Je sais pas comment vous réagissez, vous, quand vous êtes malade, quand vous avez mal à la tête, ou si vous avez un bobo. Moi, je vais avoir tendance à prendre des cachets. Alors, j'essaye de plus en plus de les éviter, de m'intéresser évidemment à toutes les médecines alternatives. Et justement, c'est de ce sujet dont on va parler avec mon invité qui est Thierry Picard, de savoir comment on peut éviter de prendre des cachets à travers ces médecines alternatives, mais aussi et principalement à travers la technologie et comment la technologie est en train d'évoluer pour supprimer les médicaments, ou en tout cas limiter la prise des médicaments. Je vous laisse avec cet épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour Thierry.
Bonjour Grégory.
On va parler ensemble de médecine sans médicaments, ce qui est un peu original parce qu'en France, on aime bien les médicaments, on est les champions des médicaments. Mais c'est vrai que on voit plein de choses se développer. D'abord les médecines douces, mais aussi Internet qui peut permettre de résoudre pas mal de choses. Toi, tu étais en tout cas au digital, tu dirigeais le digital d'un grand groupe pharmaceutique qui était Pierre Fabre. La première question que j'ai, sans doute, c'est est-ce que ces médecines parallèles ou douces, on peut leur faire confiance versus, parce qu'on a quand même cette, on adore quand même les médicaments. La preuve, c'est qu'on en prend tout le temps. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette médecine douce? Qu'est-ce que c'est que ce truc en fait qui nous arrive?
Alors, j'ai une conviction, c'est qu'en fait, face à des problèmes que tu peux rencontrer en santé, il faut considérer un arsenal thérapeutique. La chimie fait partie évidemment, enfin la chimie historique, la prise de médicaments fait évidemment partie de cet arsenal. De mon point de vue, ça n'est pas la seule voie en fait possible pour traiter des maux. Il y a beaucoup de débats autour de l'homéopathie, il y a beaucoup de débats autour de l'ensemble des médecines douces finalement, la santé naturelle, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la place que peut prendre finalement le digital dans cet arsenal. Alors après, en matière de confiance, évidemment, tout dépend de la maladie. C'est compliqué d'expliquer qu'on peut guérir du cancer par la prise de simples plantes ou d'un thé. Évidemment, c'est là où les armes les plus puissantes de l'arsenal vont jouer, et la chimie en particulier. Mais pour d'autres types de maux qui sont peut-être plus liés au style de vie, à la consommation, au sommeil, au rapport aux autres, au stress, de mon point de vue, il existe effectivement d'autres voies que celles de la chimie traditionnelle.
Alors, tu parles d'Internet. On va parler un tout petit peu des médecines douces parce qu'en fait, que ce soit l'acupuncture, la méditation, enfin, je sais pas, tu connais ça 5 000 fois mieux que moi, mais il y a quand même pas mal de médecines douces qui se développent énormément en ce moment.
Ouais.
Je trouve que, en tout cas, dans les personnes que je côtoie, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de recherches dans tous ces domaines-là, un peu tout azimut d'ailleurs. En quoi ça peut aider? Enfin, jusqu'où on peut aller? Parce qu'en fait, j'ai aussi cette impression, on parle beaucoup de médecine holistique, tu sais, d'envisager le corps dans son ensemble et pas de, par exemple, j'en sais rien, si t'as mal au bras, peut-être qu'en fait c'est pas le bras, mais en fait le bras il est lié à autre chose, etc., etc. Où est-ce que ça s'arrête en fait? Où est-ce que
Alors, je vais continuer à jouer ce parallèle un petit peu avec le digital. Pour revenir sur ta question, ce qui a été intéressant avec le digital à un moment donné, c'est de se rendre compte que les objets connectés, la data, etc., font prendre conscience qu'on ne traite pas en fait une maladie. On va s'intéresser à quelqu'un, on va s'intéresser à quelqu'un qui est dans un environnement, qui a un style de vie. Et je pense que ta question sur les médecines, ou en tout cas les approches holistiques et les médecines douces en particulier, revenons sur l'homéopathie avec les grands débats qui sont nés effectivement autour de l'homéopathie. Je trouve que ce qui est intéressant dans l'homéopathie, c'est justement cette approche de la médecine, c'est-à-dire que sans être médecin moi-même, mais ce que je trouve intéressant en qualité de patient, par exemple, c'est que quand je rencontre un homéopathe, avant même de se pencher sur les symptômes et sur les problèmes que je peux traverser, il va me poser la question de qui je suis, de qu'est-ce que je mange, de quels sont mes problèmes par le passé. Il va en fait poser toute une série de questions qui vont durer, enfin, c'est des échanges qui vont durer 45 minutes, 1 heure. Je vais avoir l'impression qu'on me traite moi en qualité de personne, en qualité d'être vivant, et pas simplement juste, je ne suis pas résumé en fait à ma maladie et au problème. Et après la question de l'efficacité, je pense que le fait d'y croire ou de ne pas y croire joue un rôle important. Et ensuite, ça me paraît là aussi en qualité de patient, un petit peu dangereux de s'arrêter simplement à une interaction entre un médicament, encore une fois de la chimie, et une maladie, une bactérie, un virus ou des symptômes. Je pense qu'il existe d'autres mécanismes, et on le voit encore à nouveau avec le digital, quand on parle de réalité virtuelle ou quand on parle d'opération sous réalité virtuelle dans un état d'hypnose, sans utiliser ou en utilisant très très peu justement de produits actifs, eh bien on voit qu'effectivement il existe encore une fois d'autres mécanismes à explorer que simplement celui induit par la chimie.
Alors c'est quoi ça l'opération sous réalité virtuelle?
Tu sais qu'on opère sous hypnose, et donc il y a quelques startups, oui bien sûr, dans certains hôpitaux en fait on opère sous hypnose, et donc des startups ont repris ce principe d'hypnose à leur compte en développant des technologies, et notamment des technologies autour de la réalité virtuelle, où on va arriver en fait à mettre un patient plus rapidement dans un état d'hypnose que via l'hypnose traditionnelle, ou en tout cas on va dire les techniques d'hypnose traditionnelle ne fonctionnent pas forcément sur tout le monde, et l'idée est de trouver au travers de la technologie des relais qui vont permettre de mettre le patient sous hypnose et surtout de le maintenir en fait en état d'hypnose en utilisant ces technologies. L'efficacité de l'image, du son, de tous les éléments en fait qui vont pouvoir mettre le patient sous hypnose sont connus depuis presque 30 ans maintenant, enfin un peu moins. Mais donc toutes ces techniques d'hypnosédation sont des techniques connues, donc des effets du son sur le cerveau, des effets de l'image sur le cerveau, et c'est vrai que la réalité virtuelle avec le casque et cet effet de bulle en fait que ça crée, démontre son efficacité dans ces démarches-là. Et donc, on peut faire des césariennes sous hypnose, par exemple. Évidemment, l'hypnose n'est pas le principe unique. On va quand même, effectivement, on va évidemment utiliser aussi des produits pour compléter l'hypnose. Mais en tout cas, les doses qui sont administrées aux femmes ou aux patients sont nettement moins importantes que celles qu'on administre sans ce type de technologie.
Et alors, quand tu parles de technologie Alors, j'aime pas utiliser le mot maladie pour parler des règles, parce que c'est pas une maladie en l'occurrence, mais par contre c'est quelque chose auquel les femmes doivent faire face pendant une longue période de leur vie. On sait qu'il y a cette technique où tu vérifies la température et du coup oui. Ça te permet d'éviter de prendre la pilule ou d'avoir un stérilet par exemple, qui quand même délivre des produits, oui. Même si c'est local, ça délivre quand même des produits. En l'occurrence dans ton vagin. Ça, c'est des choses qui fonctionnent.
Alors, c'est des choses qui fonctionnent. Là aussi, il y a eu beaucoup de discussions sur. Alors, tu parles d'une solution particulière qui s'appelle Natural Cycle, qui est une solution qui a bénéficié d'une étude clinique auprès de plus de 14 500 patientes, qui ont démontré, enfin, en tout cas, cette étude a démontré l'efficacité du concept sur l'ensemble de ces, enfin, sur cette population. Bien sûr, il faut respecter le protocole. Encore une fois, enfin, quand tu oublies de prendre une pilule, tu as des risques associés à l'oubli de cette prise. De la même façon, quand tu ne respectes pas le protocole qui t'est proposé par cette application, puisque c'est une application mobile dont on parle avec une plateforme digitale associée, quand tu ne respectes pas le protocole, évidemment, tu dois faire face au risque que ça représente. Mais si tu respectes le protocole, donc c'est associé en fait à un thermomètre qui est vendu avec la solution, qui a un niveau de précision conforme en fait aux attentes de l'application. Tu vas renseigner en fait ta température tous les matins. Et on va dire que le gros bénéfice de l'application est donc du côté de l'algorithme, qui lui va considérer les différentes températures et l'évolution de cette température au fil des jours au regard justement de tes propres comportements, va essuyer va éliminer une partie du bruit lié à cette prise de température, à cette collecte de data, et donc l'idée est effectivement ensuite de te dire à quel moment il y a pour toi le risque ou non de tomber enceinte au moment de l'acte sexuel. Donc tous les jours tu sais en fait si t'es vert ou rouge en fonction de la prise de température du matin. C'est une logique qui est connue depuis très longtemps. Enfin, c'est un principe qui est connu depuis très longtemps. La particularité de l'application, c'est d'avoir développé en fait une intelligence artificielle, même si j'aime pas trop non plus utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, voilà, un algorithme suffisamment intelligent pour être assez précis. Et donc, pour que les femmes, en fait, ça remplace complètement la pilule, en tout cas.
D'accord. Et par exemple, quand t'es malade, Enfin, si tu, par exemple, tu as de la fièvre.
Exactement. C'est là-dedans, en fait, qu'on va... Alors, ça te pose des questions aussi. Hein, c'est-à-dire que ça ne fait pas que prendre ta température.
D'accord.
Si ça, effectivement, détecte une anomalie, on va te poser des questions sur ton sommeil, sur la prise d'alcool, sur voilà, des choses qui auraient pu induire, en fait, une température anormale. Mais voilà, c'est dans l'interaction. Et tu parlais tout à l'heure de data collectée sur les patients. C'est là où on voit que le digital, en fait, ne fait pas que collecter, finalement, la température. Ce qui serait ce qu'on... Voilà, ces applications vont aussi poser des questions au consommateur, le consommateur ou le patient va y répondre. Mmh. Et c'est donc la collecte de la globalité de ces informations, la température plus les conditions associées à ce paramètre qui vont permettre d'en déduire une situation.
Alors du coup, on parlera des data tout à l'heure, mais tu as d'autres exemples que, comme celui-là qui font, où le digital peut jouer un rôle ou qui supprime les cachets.
Alors par exemple, il y a beaucoup de startups aux États-Unis, mm-hmm. mais j'aime bien parler des startups françaises. T'as une startup française qui s'appelle Lucine, mm-hmm. qui est basée à Bordeaux, qui a été détectée l'année dernière aux universités d'été de la e-santé, événement dont Pierre Fabre est partenaire. Et donc la particularité de Lucine est de proposer des technologies qui vont permettre la prise en charge de la douleur. Alors ce sont des technologies qui ont été développées d'abord dans le domaine de l'endométriose, mm-hmm. qui est une maladie aussi très, très douloureuse, mm-hmm. et aujourd'hui Lucine travaille avec de nombreux laboratoires pour développer la prise en charge de la douleur adaptée à chacune de ces aires thérapeutiques.
D'accord.
Et donc elle utilise là aussi plusieurs technologies pour prendre en charge cette douleur. Tout dépend encore une fois de la pathologie, tout dépend de l'aire thérapeutique. On retrouve à nouveau dans cet arsenal, on va dire digital, pour prendre en charge la douleur, une présence assez forte de la réalité virtuelle en particulier. Comment, en fait, grâce à la réalité virtuelle, on va permettre aux patients de ne plus penser ou de moins penser à sa douleur et le mettre dans un état qui va lui permettre de mieux encaisser la douleur sans prise de produits chimiques.
Mais la douleur en général, alors à part quand c'est un coup, par exemple l'endométriose, c'est pas juste sur 5 minutes, c'est long. Tu vas pas garder un casque de réalité virtuelle.
Non, alors ça peut parfois être pour permettre de prévenir certaines crises. Donc d'accord. On va détecter que tu peux déclarer une crise de douleur et donc l'idée c'est justement de prévenir cette crise.
Okay.
Ou alors en phase de crise. Comme si tu prenais un médicament, en fait, tu vas mettre ton casque.
Et d'accord.
Tu vas... Ou alors en phase de traitement. Il y a malheureusement parfois assez souvent des traitements qui sont douloureux, notamment en milieu hospitalier. Et là, la réalité virtuelle, au-delà de Lucine, en fait, se développe chez le dentiste, par exemple, quand on va fraiser ta dent ou t'arracher une dent, va se développer dans d'autres aires thérapeutiques ou dans d'autres spécialités. En urologie, par exemple, quand tu dois faire un BUD, pour l'incontinence urinaire vésicale, en fait, mmh. qui est un test assez invasif et très douloureux pour le patient, on va le mettre en fait sous état d'hypnosédation avec le casque de réalité virtuelle pour que, à la fois le test soit de meilleure qualité, parce que quand tu stresses, quand tu bouges, parfois les données que tu récupères, il suffit de voir par exemple quand on te prend une prise de sang, il suffit que tu bouges pour que la personne cherche ta veine, et c'est douloureux pour toi, mais c'est aussi douloureux pour elle, et puis elle n'arrive pas à capter ton sang. Donc voilà, le fait d'utiliser ces technologies pour déstresser le patient, le mettre dans un état propice au test médical, est un gain important pour les médecins avec lesquels nous travaillons.
D'accord.
Et puis pour conclure sur ce type de technologie, on voit aussi la réalité virtuelle se développer dans le traitement des addictions, et notamment les addictions au tabac par exemple.
Ah ouais.
Ou aux drogues aussi.
Et ça marche aussi pour les migraines ou... Je pose la question.
Alors ça marche effectivement aussi pour les migraines. T'as aussi tout ce qui est trouble de l'attention. On va utiliser là aussi des technologies pour ce type de technologie, aussi d'autres, mais pour les troubles de l'attention chez les enfants notamment. Aujourd'hui, c'est vraiment... c'est quelque chose qui se développe de façon très rapide. C'est un domaine qu'on appelle les digital therapies, qui sont en fait ces services couplés ou pas à un médicament. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on utilise des nouvelles technologies qu'on remplace complètement les traitements traditionnels. C'est parfois en complément d'un traitement. et dans des cas très particuliers, et ils sont de plus en plus fréquents, ça peut être effectivement sous forme de monothérapie, c'est-à-dire on ne va utiliser que le digital pour traiter en fait les symptômes rencontrés par le patient.
Donc là on a parlé de la température, on a parlé de la réalité virtuelle. Il y a d'autres manières d'utiliser le digital pour enlever des cachets. Tu parlais par exemple...
On peut utiliser le digital en fait à tous les moments d'un parcours. On considère en fait un patient un petit peu, je voudrais pas dire ça, mais comme un client. C'est-à-dire qu'on va modéliser son parcours, comme on peut modéliser un parcours client en marketing traditionnel. Et donc quand tu vas modéliser le parcours du patient, tu vas pouvoir effectivement utiliser le digital à différents moments de ce parcours pour potentialiser le traitement, pour améliorer son efficacité, etc. etc. Et ensuite, on peut aussi, on appelle ça l'observance, on peut aussi développer des applications qui vont vérifier que tu prends ton traitement de façon régulière, on va te poser des questions sur la façon de vivre le traitement. Il y a beaucoup d'effets secondaires, notamment aux traitements les plus forts dans le cadre, par exemple, de cancer. Donc l'idée, là, est d'utiliser le digital pour permettre de mieux vivre le traitement. Le digital peut aussi, dans certaines conditions, sous forme d'objets connectés par exemple, tu peux utiliser des textiles connectés, ce qu'on fait chez Pierre Fabre pour l'incontinence urinaire vésicale, où on développe en fait un textile connecté qui va aider les patients et les patientes à se rééduquer, et donc on l'espère pour des patients qui aujourd'hui ne sont pas traités ou pas diagnostiqués, leur proposer en fait une alternative à la protection ou justement au traitement. Dans ce parcours, aujourd'hui, je dirais que le digital, finalement, s'utilise partout. Et au-delà de ça, ça permet aussi au laboratoire d'apprendre beaucoup de choses sur le traitement lui-même, en récupérant de la data, mais aussi sur le patient et son environnement.
Vas-y.
Non, je disais simplement, encore une fois, une maladie, elle est portée par quelqu'un, et quand quelqu'un est malade, ça a un impact aussi sur les autres, sur les accompagnants, sur l'environnement. Et donc, c'est tout ça aujourd'hui, c'est ce niveau de connaissance-là aujourd'hui que permet le digital pour un labo.
Et je pensais aussi aux personnes qui font de l'asthme. Moi, j'avais vu un truc passer qui permettait de définir où est-ce que les gens... En fait, c'était un truc connecté qui permettait de savoir où est-ce que les gens l'utilisaient, ce qui permettait, toi, quand t'es asthmatique, d'éviter les zones potentiellement où t'allais avoir de l'asthme. Ça, c'est un vieux truc, mais il y a d'autres choses qui se sont développées, j'imagine.
Oui, bah tu Apple en fait a racheté Tueo il y a quelques jours de ça. Alors la technologie que tu décris toi, c'est une technologie qu'on va coupler en fait à la pompe pour vérifier que effectivement le traitement est correctement.
Donc là, ça remplace pas le médicament.
Est correctement pris. Ça le remplace pas, ça le complète. Là, l'idée c'est malheureusement l'efficacité de ce type de produit est très liée à la façon de le prendre, le temps que va durer la pulsion, le fait que l'air ait bien été aspiré. Donc il y a une vraie éducation en fait autour de la prise de ce médicament, et le digital aide en fait à cette éducation. Et surtout, ça permet, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça permet aussi au personnel soignant, aux médecins ou au personnel qui accompagne en fait les malades de vérifier que ce qui a été prescrit a été correctement pris dans de bonnes conditions. Ça permet aussi de comprendre parfois pourquoi un patient va décrire des effets secondaires. Avant, on pensait que c'était le médicament. Aujourd'hui, on va se rendre compte que le médicament n'est pas correctement pris ou n'est pas pris dans de bonnes conditions, etc. Donc là aussi, ça permet d'apprendre énormément de choses, notamment sur les effets secondaires ou les effets indésirables des médicaments, et au final, au bénéfice du patient, sur l'efficacité que ça peut avoir en qualité de traitement. Donc c'est la première chose. La seconde, si on prend le cas Tueo, ça n'est pas effectivement un dispositif technologique qui permet de mieux prendre le produit. C'est une application, une architecture complète, parce que c'est à la fois un site internet, une application qui va collecter de la data sur les enfants en particulier, et c'est par exemple connecté à une enceinte que tu vas mettre dans la chambre de l'enfant, ou ça peut être aussi des éléments en fait qui sont proposés par Tueo, des capteurs en fait qui sont proposés par Tueo, et donc on va récupérer des données, le bruit que va faire la respiration, la vitesse à laquelle tu vas respirer, enfin il y a toute une série de paramètres, et donc derrière on va coacher le comportement des parents vis-à-vis des enfants et le comportement des enfants eux-mêmes pour limiter effectivement à la fois la gravité des crises d'asthme et en même temps leur durée.
Donc c'est préventif.
C'est préventif effectivement, mais c'est surtout, enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà eu des crises d'asthme. Quand tu sais pas ce qui se passe, quand on t'a pas expliqué ce que tu traversais, t'as un moment de panique énorme. T'as juste une envie, c'est soit d'aller aux urgences. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais adolescent. C'était de l'asthme allergique. Je me mets à la place d'un parent qui n'a jamais traversé ça. Si ça arrive à un de ses enfants. La réaction, c'est les urgences. Donc, l'idée de l'entreprise, quand elle s'est lancée aux États-Unis, c'était de limiter le nombre d'entrées aux urgences liées à ce problème-là. Donc, l'idée, c'est en fait d'accompagner à la fois l'enfant et d'accompagner les parents dans l'éducation. C'est pas que de la prévention, c'est aussi de l'éducation, justement pour éviter, enfin pour avoir le bon geste au bon moment et éviter un recours inutile aux urgences ou à un médecin.
Ça s'écrit comment ?
Tueo. Alors, ça s'écrit T-U-E-O.
D'accord.
Tu es où exactement ça se
d'accord.
dit.
Et alors, si les personnes qui nous écoutent ont envie de trouver d'autres solutions du même genre, il y a un mot-clé
La difficulté aujourd'hui, je dirais qu'elle est là. C'est-à-dire que la difficulté, de mon point de vue, c'est que les technologies existent, mais qu'elles ne sont pas forcément promues, qu'elles ne sont, et il y a plusieurs raisons à ça, qu'elles ne sont pas connues du grand public, et qu'aujourd'hui, l'enjeu des professionnels de santé, que ce soit les pharmaciens, les médecins, voire même les laboratoires que nous sommes, avons le devoir de promouvoir ces solutions qui aujourd'hui sont reconnues par la FDA aux États-Unis, qui sont progressivement reconnues aussi en France, qui sont reconnues par les mutuelles, par les assurances, comme ayant un effet démontré, mesuré sur la santé. Nous avons, nous, le devoir de faire connaître aux patients et aux consommateurs ces technologies qui complète en fait le fameux arsenal thérapeutique.
Non, et aujourd'hui, ça enlève du business, non ? Enfin, je sais pas. A priori, vous vendez des cachets.
Ouais. Alors, moi, je dirais que pour un laboratoire, ça peut être un business complémentaire. Effectivement, l'idée, c'est pas de se dire que, enfin, en tout cas, chez Pierre Fabre, c'est pas comme ça qu'on le considérait. Je pense qu'il faut. C'est une vague contre laquelle on peut rien, en fait. C'est-à-dire que c'est lancé, il y a des résultats cliniques de plus en plus, c'est-à-dire que ces sociétés-là ont aujourd'hui les moyens financiers de mener de vraies études cliniques, ce qu'ils n'avaient pas forcément il y a 2-3 ans de ça. Ils ont levé des fonds, ils ont démontré de l'efficacité sur des panels de patients, ils ont les moyens de faire des études cliniques traditionnelles, et même si ça reste encore assez confidentiel, c'est quelque chose qui sera massif d'ici, on va dire, 2 à 5 ans. Donc, la considération qu'on avait chez Pierre Fabre, c'est de dire qu'on doit compléter absolument notre arsenal thérapeutique par ces nouvelles technologies. Et je pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui, les laboratoires doivent considérer ces nouveaux outils. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les médecins, les pharmaciens considèrent aussi l'efficacité de ce type de technologie dans le cadre d'un traitement. Il faut qu'ils soient formés à ça, parce qu'il faut aussi, c'est un nouveau domaine. C'est pas un domaine qui est géré par des chimistes ou par des pharmaciens d'officine. C'est un domaine géré par des entrepreneurs, par des gens qui font de l'électronique, des gens qui font des mathématiques, de l'algorithmie, de l'informatique. Donc c'est un autre univers avec d'autres compétences. Et demain, le pharmacien et le médecin doivent aussi être capables de prescrire ce type de choses.
D'accord.
Et là, je pense qu'on a, à la fois en termes de formation des professionnels de santé, formation continue ou formation initiale, ou d'accompagnement, de conseil des professionnels de santé comme des laboratoires, il y a un gros travail avant que ça ne soit un comportement de masse.
D'accord, oui, effectivement. Mais alors, par contre, tu parlais des data, de la donnée. Donc, il y a un énorme débat, évidemment, sur la donnée... qui est capturée par les entreprises et à qui elle appartient, et en particulier tu parlais d'Apple, et donc le fait que ce soit un des GAFA, le fait que du coup notre data parte aux États-Unis, il y a aussi ce coût-là finalement quand quelqu'un, alors il y a plusieurs coûts quand on prend de la chimie, c'est évidemment il y a forcément des effets secondaires, enfin c'est-à-dire on peut pas prendre un cachet sans qu'il y ait d'effets secondaires malheureusement, mais d'utiliser un outil digitalisé, alors peut-être pas la réalité virtuelle, mais ça implique de la captation de données du patient. Comment ça évolue comment toi tu vois ça évoluer ? Parce qu'en fait, cette data, cette donnée, elle a énormément de valeur aussi, en fait. Et puis il y a la protection de cette donnée, et puis il y a énormément d'éléments à l'intérieur de ça.
Alors, Enfin, si on essaie de prendre un petit peu de hauteur, le patron, enfin l'ancien président de Microsoft qui est mort d'un cancer, disait qu'en fait, le fait de chercher à trop protéger de la donnée de santé empêchait finalement le progrès médical et était certainement, alors il tirait le trait un peu loin, mais était certainement responsable de plusieurs centaines de milliers de morts, voire même plusieurs millions de morts par an dans le monde. Je dirais que c'est, pour l'avoir touché du doigt, je l'exprimerai pas forcément comme ça, mais c'est quelque chose que je partage assez. C'est-à-dire que, évidemment, il faut respecter le patient, évidemment, il faut respecter cette donnée qu'il génère, il doit en avoir la propriété. Il doit être informé de ce qu'on en fait. On ne doit pas l'exploiter, on va dire, contre son intérêt ou contre son bénéfice. Enfin, tu imagines, évidemment, là aussi, tout l'arsenal éthique et réglementaire qu'il faut qu'il y ait autour de tout ça. Mais une fois que ces sujets sont traités, il faut absolument qu'on puisse libérer cette donnée pour la travailler, encore une fois, au bénéfice de la recherche et au bénéfice de solutions qu'on pourrait proposer aujourd'hui sur le marché, qu'elles soient chimiques ou digitales, peu importe. Mais aujourd'hui, de trop la contraindre, c'est des projets de recherche qui sont complètement abandonnés. Moi, j'ai mené chez Pierre Fabre des projets. On souhaitait, par exemple, utiliser des technologies comme l'intelligence artificielle, là aussi, pour en recherche, enfin en R&D, pour chercher des solutions, pour réduire les effets secondaires, enfin voilà, sur différents champs, sur différents axes de recherche. Et toutes les contraintes qui étaient associées à la réutilisation de la donnée faisaient que finalement, c'était plus coûteux de rendre cette donnée réutilisable plutôt que de la recapter.
D'accord.
Donc c'est compliqué de se dire qu'on a des sets de données qu'on ne peut pas réutiliser, même si on sait qu'il y aurait un bénéfice à leur réutilisation, simplement parce qu'on est contraint par toute cette réglementation qui nous impose de redemander aux patients le fait de réutiliser cette donnée dans un cadre qu'on doit décrire. Donc voilà, ça c'est compliqué. Et puis je dirais que, imaginons qu'on aille au bout de cette théorie, la recherche c'est beaucoup de la sérendipité, c'est-à-dire que c'est compliqué d'aller dire à un patient voilà, on va utiliser votre donnée dans ce cadre-là, parce qu'en fait parfois quand on commence à cruncher de la data, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. On cherche des corrélations, parfois elles n'ont pas de sens. Et donc c'est compliqué de dire à l'avance ce pourquoi on va utiliser cette data. Et donc là aussi, il y a, je dirais, un deuxième axe de réflexion autour d'une certaine liberté de l'utilisation ou de la réutilisation de cette data une fois que le patient a donné son accord pour qu'elle soit utilisée. C'est-à-dire que au moment où tu dis que tu acceptes de donner tes organes, on n'est pas obligé de te dire pour qui va servir cet organe. Juste t'acceptes le fait de donner tes organes. Donc si aujourd'hui les patients que nous sommes à un moment donné de notre vie, si nous étions conscients que le fait de donner de libérer cette donnée, on va dire, permettrait peut-être demain de réduire le nombre de malades, voire même de sauver des vies, bah peut-être qu'on accepterait tout simplement de dire ok, je lègue mes données à la science.
Tant que c'est pas donné à ton assurance pour augmenter ta prime d'assurance.
Exactement. Tant que ça n'est pas utilisé contre moi, si ça peut aider des gens, si ça peut sauver des vies, si ça peut aider des personnes à avoir moins mal, moi j'ai aucun problème à laisser ma data.
Ouais, ça implique d'avoir confiance.
Oui, c'est signé un pacte. Mais comme quand tu donnes tes organes,
bien sûr,
tu présupposes que ça va être utilisé correctement au moment où ça doit l'être. À aucun moment tu te dis bon bah peut-être qu'ils vont jeter mon cœur. Non, tu sais très bien que ça va être réimplanté, etc. Ou en tout cas qu'ils vont essayer de le réimplanter dans de bonnes conditions. Parfois il y aura un rejet, mais en tout cas ouais, il y a une sorte de pacte au moment où tu donnes ton accord. Je pense que pour la data, il faudrait faire confiance aux professionnels de santé et il faudrait se dire qu'au moment où cette donnée est léguée, eh bien, elle l'est pour le bien commun et elle n'est pas forcément utilisée contre moi à des fins privées. Même les mutuelles ou les assurances, quand tu discutes vraiment avec des opérateurs, c'est pas... on pense tout de suite à ça, mais ils sont bien loin de ça.
Et alors, ce podcast s'appelle Vlan, donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. D'ailleurs,
j'aimerais ouvrir la porte à cet aspect-là, c'est-à-dire à la libération de la donnée. Je pense qu'il faut que les gens prennent conscience que de libérer la data et d'accepter de libérer cette data, ou en tout cas en qualité de patient, de participer au débat. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui font ce débat-là ne sont pas forcément des patients, ne sont pas forcément des gens qui rencontrent pour eux-mêmes ou pour des gens de leur famille des maladies. Donc il faut être acteur de sa data et il faut être acteur de ce débat. Donc il faut libérer la data, c'est vraiment un sujet important. Et peut-être le deuxième sujet, et c'est plutôt effectivement cet aspect vlant des choses, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on travaille dans la santé qu'on est, il faut arrêter de nous voir justement comme tu le disais, comme des vilains qui veulent absolument exploiter le patient pour faire de l'argent sur son dos. Il faut être réaliste. Bien sûr qu'il faut qu'on fasse de l'argent sur son dos, enfin quelque part comme n'importe quelle économie. Mmh. Il faut qu'on puisse tirer des bénéfices et bien des traitements qui sont proposés sur le marché et que ces bénéfices permettent de faire évoluer la recherche médicale. La recherche médicale coûte de plus en plus d'argent parce que il existe déjà sur le marché énormément de principes et pour en découvrir de nouveaux, les barrières d'entrée sont fortes. Donc voilà, la recherche coûte beaucoup d'argent. Il faut pas non plus évidemment qu'on en tire. Il faut pas simplement parce que on est détenteur d'une molécule qu'on la mette à des prix dingues. Évidemment, il faut faire attention aussi à ce genre de pratique, mais je dirais que globalement, je pense que l'industrie est quand même loin de ça. L'idée, c'est surtout d'être capable, de faire le bien en considérant le patient et en remettant au centre de notre problématique en qualité d'industriel du monde de la santé.
Mais néanmoins, pour revenir sur la libération de la data, c'est évidemment on peut voir ce côté-là des choses et puis aussi on peut se dire bon, en même temps. Ça a de la valeur. Peut-être que il faut favoriser des entreprises françaises parce que quand tu donnes tes data à cette société qui a été rachetée par Apple, tu donnes tes données à Apple, qui est une société américaine. C'est pas le même droit, donc tu sais moins ce qui va se passer au final.
Oui.
Il y a aussi ça.
Certainement, je pense que tu as parfaitement raison, mais je dirais qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment le choix ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a malheureusement des terminaux, pour beaucoup d'entre nous, qui sont des terminaux Apple. Mmh. On a des opérateurs téléphoniques, Orange, Bouygues, SFR. On leur donne, on a signé des contrats sans même se poser la question des données qu'on leur fournissait. On est déjà dans une dynamique où, de toute façon, cette donnée, elle est fournie. Donc, je dirais, essayer de se battre pour que cette donnée soit gardée dans des entreprises françaises, etc. Je pense que c'est compliqué. Enfin, on peut pas revenir en arrière. Maintenant, se battre pour qu'on sache qu'est-ce qui est fait de cette donnée. Vérifier effectivement que ce soit à des fins collectives, du bien commun. Ça oui, ça a du sens, je pense. De la transparence autour de l'usage de cette data. Maintenant, revenir sur cet aspect souverain, en disant ok, la data produite par les Français doit rester en France ou on doit la fournir qu'à des entreprises françaises. Je pense que on fournit nos données à Facebook, on fournit nos données à Apple et à d'autres entreprises qui sont américaines ou chinoises, peu importe. Mais cette donnée, elle est déjà dans au niveau mondial. Enfin, elle est dans le cloud, on ne sait pas exactement où elle est. Et même quand tu commences à discuter avec des entreprises, alors sans donner le nom, mais des grands éditeurs qui garantissent effectivement une certaine souveraineté de cette data, puisque c'est la demande qui est faite par des laboratoires de santé en particulier. Mais quand tu commences à creuser le processus, et que tu te rends compte que, cette donnée, elle est captée sur des serveurs français, mais elle va être processée sur des algorithmes qui, eux, sont hébergés aux États-Unis. Tu dis qu'à un moment donné, même si l'algorithme échantillonne la donnée, qu'il n'en prend qu'une partie pour travailler sur ses propres serveurs, de toute façon, la donnée est exportée. Donc, ça me paraît une utopie d'accepter, de considérer cette souveraineté comme indémontable, indéboulonnable, me paraît là aussi une utopie.
Ok. Merci beaucoup Thierry.
Je t'en prie, c'était un plaisir.
Ouais, c'était un plaisir. Il y a plein de sujets c'est marrant parce qu'en fait, je suis en train de me dire, il faudrait parler de l'homme augmenté, enfin de la personne augmentée. Il faudrait parler des opérations qui sont faites via la technologie, mais là on n'a pas le temps. Mais il y a plein de sujets qui sont liés à ce sujet qui sont passionnants, je trouve, en fait.
Eh bien, c'est peut-être l'occasion d'un deuxième ou un troisième podcast. On va regarder les stats et puis si ça marche, on en proposera d'autres.
Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Merci beaucoup Thierry.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.